Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Yves Saint-Omer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8, spécialiste des questions démocratiques. Alors, un signe d'apaisement dans les tensions entre Alger et Paris aujourd'hui. Après des semaines de tensions, le président algérien Abdelmadjid Tebboune déclare « Mon unique point de repère, c'est le président Macron ». Déclaration faite hier soir sur les ondes de la télévision nationale d'État.
Je dirais trois mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique. Nous, en garde, comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Nous travaillons ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française. Tous les problèmes doivent se régler avec lui, ou avec la personne qu'il délègue à juste titre, à savoir le ministre des Affaires étrangères.
Et en parlant du ministre des Affaires étrangères et non du ministre de l'Intérieur, le président algérien vise directement Bruno Retailleau. Côté français, en expliquant qu'il n'y a aucune tension sur l'Algérie entre les ministres et une vision commune partagée avec Emmanuel Macron, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, salue la déclaration du président algérien.
Vous ne pouvez pas trouver de solution avec l'Algérie si vous ne parlez pas à l'Algérie. Il faut donc sortir de cette affaire par le dialogue. Moi, j'ai entendu que le président Tebboune avait fait un petit signe vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est très bien. Voilà une façon de renouer le dialogue et d'échanger sur les sujets qui sont les sujets sensibles entre les deux présidents. C'est un bon signal.
Yves Saint-Omer, pourquoi un tel changement du côté algérien après, on le disait, plusieurs semaines de tensions ?
Ah, écoutez, évidemment, on n'est pas dans le secret des décisions du président algérien. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un côté, l'Algérie n'est pas satisfaite de la façon dont la France privilégie son rapport avec le Maroc, avec lequel l'Algérie est en compétition dure à propos du Sahara occidental. Mais d'un autre côté, l'Algérie... il est toujours de bon aloi pour un président qui est un président relativement faible. Le régime algérien n'a pas une légitimité très assise. Donc d'un côté, il est de bon aloi de s'opposer à l'ancienne puissance coloniale. Et il y a d'ailleurs des raisons pour cela. Mais de l'autre côté, aller jusqu'à une rupture ou un affrontement trop dur placerait l'Algérie dans une condition... difficile du fait de son économie qui n'est pas très bonne en ce moment.
Donc tension entre les deux pays, mais également tension au sein même de la classe politique française.
Évidemment, on a, et ce n'est pas simplement sur l'Algérie que nous pouvons le constater, on a une course à la droitisation de la part des Républicains et d'une partie du camp présidentiel, pour en rajouter par rapport au Rassemblement national. On sait bien que ce qui est derrière cela, ce ne sont pas les problèmes diplomatiques qui peuvent exister entre les pays, qui normalement se règlent de façon diplomatique, mais un appel aux électeurs à une certaine xénophobie contre l'Algérie, envers laquelle il y a encore, dans la mémoire collective des Français, des plaies non refermées.
Quel est le poids électoral des franco-algériens ?
Alors le poids électoral des franco-algériens n'est pas négligeable, mais il n'est pas non plus extrêmement important. Il s'agit sans doute de quelques centaines de milliers de personnes, si l'on compte les franco-algériens adultes. Et en même temps, il est, d'après les chiffres dont nous pouvons disposer, il vote beaucoup plus à gauche, en particulier France Insoumise. Et donc il ne s'agit pas, pour le président de la République, en premier lieu... d'un calcul électoral.
Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8. Dimanche dernier, dans Dimanche politique, ici même, donc, il était question de l'annonce faite par François Bayrou de ne pas revenir à la retraite à l'âge de 62 ans. Il l'avait dit au détour d'une phrase et depuis, il y est revenu, franchement, notamment à l'Assemblée nationale.
Je ne crois pas que qui que ce soit... qui travaille sur ce sujet puisse prétendre qu'on peut en revenir à la retraite à 62 ans. Et je suis persuadé que les partenaires sociaux, dans leur ensemble, en viendront à une conclusion de cet ordre.
Et dans la foulée, la chef de la CGT, Sophie Binet, claquait la porte du conclave.
Les 62 ans, c'est la question centrale. En disant cela, non seulement le Premier ministre trahit sa parole, mais il trahit des millions de salariés qui se sont mobilisés pour l'abrogation de la réforme des retraites. La CGT a décidé ce soir de quitter ses concertations et d'appeler les salariés à se mobiliser.
Quant à la CFDT, sa secrétaire générale Marie-Lise Léon s'exprime aujourd'hui dans les colonnes de la Tribune dimanche. Revenir sur l'âge légal de 64 ans reste un objectif pour la CFDT, estimant à 50-50 les chances d'un accord entre les partenaires sociaux. Pour le premier syndicat de France, le programme du conclave tient en trois mots: âge légal, pénibilité et retraite des femmes. Et aujourd'hui, la classe politique commente tout cela, comme par exemple Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, c'était sur France 3.
Il n'y a aucune raison de dire aux Français « vous allez travailler 2 ans de plus ». Tant qu'on n'aura pas réglé deux problèmes, il n'y a que 39% des plus de 60 ans qui sont en activité. Alors si vous dites que vous décalez l'âge de la retraite de 2 ans, ça veut dire 2 ans de chômage ou 2 ans de RSA supplémentaires. L'idée d'une retraite, c'est pas d'avoir des gens qui ont le dos cassé, qui sont dans une santé fragile pour vivre quelques années. L'idée d'une retraite, c'est de profiter. Ces gens ont cotisé toute leur vie, ils méritent de profiter de leur retraite. Et une fois encore, je le dis, si on ne règle pas le problème de l'emploi et de la productivité et de la natalité, tous les 2 ans, vous aurez un ministre qui viendra dire aux Français, maintenant, il faut travailler encore plus parce qu'il n'y a plus d'argent, ça suffit.
Gérald Darmanin, ministre de la Justice, appelle, lui, à une profonde réforme allant au-delà de l'âge de départ à la retraite.
Il faut dire la vérité aux Français, le régime par répartition, je paye des cotisations pour payer les retraites de ceux qui sont aujourd'hui en retraite, ne va plus pouvoir fonctionner très longtemps. Il faut repenser la retraite par répartition. C'est quoi? C'est le fait qu'il y a plus de gens qui travaillent que de gens qui ne travaillent pas. Et donc les cotisations de ceux qui travaillent payent les retraites avec une amélioration de pouvoir d'achat chaque année de ceux qui ne travaillent pas. Ça marchait quand il y avait plus d'actifs et moins de retraités. Il faut peut-être aller vers la capitalisation. Un socle de régime par répartition pour tout le monde et puis une capitalisation obligatoire, c'est ce que font les fonctionnaires.
Yves Saint-Omer, le conclave a-t-il encore un intérêt? Est-ce que les Français sont passés à autre chose d'ailleurs après la forte mobilisation, Sophie Binet y faisait allusion, lors de l'adoption du texte sous le gouvernement d'Elisabeth Borne?
Il faut rappeler que le texte avait été adopté contre l'ensemble des syndicats, contre une majorité de l'opinion publique, contre des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans la rue, et contre, y compris, une majorité parlementaire. Il est vrai que la lutte avait été dure, longue, et on peut comprendre que beaucoup de Français soient, de ce point de vue-là, épuisés. Mais on voit aussi qu'aujourd'hui, la motivation officielle qui avait permis au Parti socialiste de ne pas censurer le gouvernement, ce conclave sur les retraites, est mal parti.
On va y venir, puisqu'il y a une autre question qui est plus politicienne, celle-là. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a-t-il créé ce conclave pour affirmer maintenant qu'il ne pourra pas revenir sur l'âge de départ? Réécoutons Laurent Jacobelli du RN sur ce qui aurait été une manœuvre pour lui de la part de François Bayrou.
Un conclave voulu par M. Bayrou était simplement le moyen d'anesthésier le Parti Socialiste à l'époque pour qu'il ne vote pas la motion de censure pour se maintenir en place. Si le Parti Socialiste l'avait votée, elle aurait pu passer. Là, pour le coup, il les a, j'allais dire, pétrifiés. Est-ce que les socialistes étaient conscients du fait que c'était un attrape-nigaud? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont plongé tête la première, probablement parce que c'était une question de survie pour eux.
Quant à Sophie Prima, porte-parole du gouvernement, elle commentait la situation au micro d'Europe 1 ce matin.
Je suis un peu estomaquée par la position des socialistes. Ils devraient être hyper heureux qu'on mette les partenaires sociaux autour de la table. C'est ce qu'ils ont demandé pendant des années. D'ailleurs, ce qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. J'appelle les socialistes à la responsabilité. Et donc, je les appelle à continuer avec les organisations salariales à travailler sur cette question des retraites. C'est trop important. On joue la pérennité des retraites. C'est ça qu'il faut bien comprendre.
Yves Saint-Omer, est-ce qu'il y a eu un pacte de non-agression avec le Parti socialiste? Est-ce qu'il est dénoncé aujourd'hui?
Alors, c'est assez probable. Cela permettait au Parti socialiste de justifier la non-censure et, du côté de Bayrou, de continuer à gouverner. Il est peu probable qu'à l'époque, les socialistes auraient pensé qu'assez rapidement, la question de l'âge de départ à la retraite serait finalement verrouillée, ce qui était tout de même un sujet de divergence majeure. Il ne faut pas oublier cependant que le Parti socialiste est profondément divisé, non seulement sur la question des retraites, mais surtout sur la question d'une censure potentielle. L'aile modérée du Parti socialiste ne veut pas de censure, l'aile radicale peut l'envisager. C'était aussi pour se sauver lui-même que le Parti socialiste avait réussi à arracher ce conclave au Premier ministre.
Donc on ne peut pas affirmer que les socialistes déçus auraient en tête aujourd'hui de prendre leur revanche en censurant le Premier ministre comme il l'avait fait avec son prédécesseur.
Il est probable qu'une partie au moins importante des socialistes est déçue et s'estime flouée par l'apparition de ce blocage sur la question de l'âge de départ à la retraite qui n'était pas à l'époque, explicite dans la proposition du Premier ministre de commencer un conclave.
Et en étau, il y aurait le Rassemblement national qui déclare aujourd'hui que les dossiers s'accumulent en faveur de la censure.
Il est sûr qu'aujourd'hui, la situation du gouvernement est de plus en plus fragile. D'une certaine manière, il ne tient que parce que certains adversaires politiques, ça a pu être le cas du Front, du Rassemblement national à un moment, c'est aujourd'hui le cas du Parti Socialiste, ou jusqu'à aujourd'hui, c'était le cas du Parti Socialiste, pour des raisons électorales, hésite à faire tomber de nouveau le gouvernement.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Ce dimanche, le ministre de la Justice explique qu'il a trouvé la solution pour réduire la surpopulation dans les prisons. 82 000 détenus pour 62 000 places. Gérald Darmanin a fait les comptes. Le problème sera réglé si l'on renvoie chez eux le quart des prisonniers, car ils sont étrangers. Sur LCI, Jean-Philippe Tanguy, du RN, se félicite de cette proposition du garde des Sceaux.
Aujourd'hui, ces chiffres sont consensuels. Que n'a-t-on subi d'insultes au Rassemblement national quand nous disions la vérité sur la surreprésentation des étrangers en prison? Là, on parle d'un facteur x3. Il y a 8% d'étrangers en France, 24% dans les prisons, y compris quand on retire les étrangers de la communauté européenne. Donc tous ces chiffres étaient vrais. Et le Rassemblement national disait la vérité. Je regrette que M. Darmanin ait mis tant de temps à le comprendre. Donc on sent bien qu'il y a des élections dans l'air. Visiblement, les ambitions s'aiguisent pour 2027. Et quand les ambitions électorales s'aiguisent, eh bien, on pioche dans le programme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella.
Alors faut-il renvoyer ces étrangers chez eux ou bien les exfiltrer, comme l'expliquait tout à l'heure le ministre de la Justice sur BFM TV?
Je ne comprends pas le débat qui consiste à ne pas voir que nous sommes quasiment le seul pays à ne pas imaginer cela. Il y a des pays autour de nous qui font encore plus ferme, et je vais étudier cette possibilité, c'est d'avoir un pays tiers où les personnes qui sont étrangères en détention font leur peine. Par exemple, aujourd'hui, le Danemark le fait avec le Kosovo.
Ce discours de fermeté à droite, sans que la gauche se fasse vraiment entendre, alors que les associations ont une sensibilité certaine concernant le sort des prisonniers, vous en faites quelle analyse, Yves Saint-Omer ?
Écoutez, d'abord, il faut rappeler que les statistiques sur la surreprésentation des étrangers dans la population carcérale doivent être relativisées lorsqu'on prend à milieu social égal. On sait que les couches populaires vont plus en prison que les autres. Et lorsqu'on prend aussi la différence d'interpellation dans l'action policière et dans le traitement des infractions, en particulier avec les flagrants délits. Donc c'est à relativiser d'un côté. De l'autre côté, on voit bien, ça a été le cas pour l'Italie avec l'Albanie, on voit bien aussi, c'est le cas de l'administration Trump qui essaye de faire la même chose, on voit bien les grandes difficultés qu'il y a à pouvoir renvoyer des personnes jugées comme délinquantes dans leur pays d'origine. Et donc, il s'agit plus d'un argument électoral que d'une politique qui pourrait être appliquée systématiquement et qui pourrait remédier, rappelons-le, à des milliers et des milliers de personnes en surpopulation carcérale.
On vient d'écouter Gérald Darmanin qui appartenait au parti Les Républicains avant de se rapprocher d'Emmanuel Macron. Les LR, justement, dans un peu moins de 2 mois, maintenant, se tiendra l'élection pour la présidence du parti. Ce sera bien un duel entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, puisqu'aucun autre candidat ne s'est déclaré dans le délai imparti. Raphaël Delvolvé, du service politique de RFI, la campagne s'est nettement tendue entre les deux hommes.
Oui, en challenger, Laurent Wauquiez est contraint à l'attaque avec cette ligne « Vanter l'indépendance contre la solidarité au fragile et composite gouvernement de François Bayrou ». Alors il saute sur toutes les balles, notamment celle offerte sur un plateau par Bruno Retailleau le week-end dernier. Ce dernier menace désormais de démissionner de son poste si, dit-il, la France cède sur le dossier algérien dans lequel, on le rappelle, il entend mener un bras de fer à travers une riposte dite graduée allant jusqu'à jusqu'à la dénonciation des accords de 1968, ce qui n'est pas sans risque puisque le président Macron n'est pas forcément favorable, du moins publiquement, à une telle action. Laurent Wauquiez s'en saisit dans une interview au Parisien. L'exécutif, je cite, a choisi de capituler avant même de combattre. Si le président refuse de dénoncer des accords, rester au ministère de l'Intérieur n'a aucun sens. Mardi, nouvelle pique. Lors des questions au gouvernement, le chef des députés LR s'adresse au Premier ministre en déplorant l'absence de grande loi immigration. Il demande « Êtes-vous déterminé à donner les moyens à votre gouvernement d'agir ?» Rebelote jeudi dans un tweet sur X en réaction au réquisitoire de 10 ans de prison contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Laurent Wauquiez, je cite, explique que la riposte algérienne, elle, n'est pas graduée. Cette mise sous pression ressemble furieusement à la stratégie du Rassemblement national et le ministre de l'Intérieur choisit de ne pas y répondre. Du moins, la semaine dernière, il s'est risqué à une formule à la radio. Les chiens aboient, la caravane passe. Son concurrent extrapole dans la foulée, se disant convaincu que Bruno Retailleau regrette cette formule malheureuse.
Mais en coulisses, en revanche, Raphaël, les équipes de Bruno Retailleau parlent beaucoup.
Oui, son entourage le dit avec ironie. Laurent Wauquiez a cet avantage sur nous de ne pas être chef de groupe à l'Assemblée nationale. Son absence aux deux débats sur l'Ukraine est une honte, je cite. Laurent Wauquiez délaisse, il est vrai, ses fonctions de député pour faire près de 120 déplacements de campagne jusqu'à la mi-mai. Il faut faire des cartes, comme on dit dans le jargon. 20 000 nouveaux adhérents ont rejoint les rangs d'LR depuis le début de la campagne, soit à cette heure 60 000 potentiels électeurs à la mi-mai. Dans cette bataille de l'ombre, les retailleistes montrent quelques signes d'agacement ces derniers jours. L'un d'eux avoue en off, Laurent Wauquiez a la main sur le parti et ça hurle de plus en plus chez nous. De quoi laisser penser à un autre match dans le match que les wauquiezistes imposent, le candidat des adhérents contre celui des barons du parti, façon pour eux de minimiser les nouveaux soutiens de poids lourd pour Retailleau, Valérie Pécresse et la ministre Sophie Primas ces derniers jours.
Yves Saint-Omer, en tout cas, c'est un nouvel épisode de ce feuilleton récurrent de la saga de la guerre à droite, sachant que la ligne de fracture idéologique est ténue entre les deux hommes.
Oui, effectivement, on n'a pas deux lignes politiques qui s'opposeraient, on a deux égaux qui s'opposent. Et malheureusement, c'est trop souvent le cas dans la politique française au cours des dernières années. On a beaucoup d'égos à droite, on les a aussi au centre. Et du coup, la politique se réduit à un combat de personnes et pas à une véritable discussion sur les orientations de la nation.
Et puis ça fait 100 jours hein, que François Bayrou est Premier ministre, au passage c'est 9 jours de mieux que son prédécesseur Michel Barnier, le Premier ministre qui enregistre une lourde baisse de sa cote de popularité en mars, il dévisse de 11 points par rapport à février, c'est ce qui ressort d'un baromètre d'IFOP, de l'IFOP pour le journal du dimanche, sa cote tombe à 27%, et comme il est accusé par plusieurs parlementaires et responsables politiques d'immobilisme et d'inaction, mais il a pris la plume qu'il a envoyé un certain nombre de parlementaires. Pourquoi a-t-il besoin de se justifier si peu de temps après avoir été nommé à l'hôtel de Matignon?
Je crois qu'on a un phénomène récurrent maintenant, c'est qu'on a des élections, on a des victoires très justes ou des défaites qui se transforment en travers des accords électoraux en semi-victoires. Et puis très rapidement, les gouvernants se retrouvent de nouveau en crise de légitimité. C'est le cas aujourd'hui du Premier ministre. Il aura bien du mal à faire passer des mesures extrêmement dynamiques. Il n'y a toujours pas de véritable bloc sur lequel il pourrait s'appuyer et qui serait majoritaire. Et donc la relative inaction risque de continuer. Il faut la conjurer avec des annonces. Est-ce que les politiques suivront? C'est une autre chose.
On a l'impression d'ailleurs que François Bayrou n'a pas de programme en tant que tel. Il n'est pas arrivé à Matignon avec un programme.
Il n'est pas arrivé à Matignon avec un programme. Il avait une ambition, celle de pouvoir, d'une certaine manière, calmer le jeu et réussir à faire des alliances, mais sans en avoir véritablement les moyens.
Merci pour ces analyses et ces commentaires, Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques à l'université Paris 8, hein, c'est Saint-Denis, spécialiste des questions démocratiques, et vous partez prochainement en Chine pour justement étudier tout cela. On aura l'occasion de se retrouver sur Radio France Internationale. Dimanche politique à retrouver bien évidemment sur l'appli et sur le site internet de Radio France Internationale.